Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Les auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service, et merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Conseils et astuces pour travailler avec des personnes incompétentes. Voilà, les personnes incompétentes sont présentes dans de nombreuses organisations. Et alors, comment travailler avec ce genre de personnes? On en parle aujourd'hui avec notre invité, Dr Julius Elumba, sophrologue psychocomportementaliste. Dr Elumba, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Des questions et préoccupations, composez le 097 126 99 34, 097 126 99 34. Paul Badianyama assure la coordination et la réalisation de cette émission de la vie au quotidien. Esther Mamboté, David Moussangou s'occupent des plateformes digitales de radio Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, des personnes incompétentes sont présentes dans de nombreuses organisations. Leur incompétence se manifeste par des erreurs répétées, des délais non respectés et une difficulté à s'adapter au changement. Un incompétent peut être un collègue, une subordonnée ou bien votre propre manager. Dans de nombreuses organisations, ces individus incompétents occupent durablement des postes de direction. C'est ce qu'on appelle le phénomène kakistocratie. Voilà, la kakistocratie. Ils manifestent souvent une forte assurance qui cache mal leur insuffisance. Par ailleurs, il n'est pas toujours facile de gérer une situation d'incompétence au quotidien. Cela exige une approche stratégique pour préserver votre propre énergie, votre santé mentale, éviter des frustrations, la démotivation et des tensions au sein de l'entreprise. Alors, que faire face à l'inquiétante montée de l'incompétence? Quelle est la bonne posture professionnelle à adopter pour travailler efficacement aux côtés d'une personne incompétente? On en parle avec notre invité, Dr Julius Elumba, sophrologue psychocomportementaliste. Dr Elumba, ravi de vous avoir encore aujourd'hui dans cette émission. Nous parlons des personnes incompétentes. D'abord, c'est qui une personne incompétente?
Bon, pour moi, un incompétent, c'est lié à la compétence. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'a pas assez de connaissances ou il n'en a pas tout. Pour accomplir une fonction, une tâche ou prendre des décisions. Oui. C'est-à-dire, on est incompétent lorsqu'on on est en insuffisance de connaissances pour exécuter une tâche totalement ou partiellement ou une fonction ou aussi prendre des décisions. C'est que dans ce contexte-là, si une personne n'arrive pas, il est classé parmi les incompétents. En résumé, une personne a une compétence lorsqu'il a des problèmes de connaissances ou de formation.
Et comment expliquez-vous que les incompétents se retrouvent un peu partout, même à des postes de direction?
Bon, vous savez, j'aurais voulu expliquer qu'il y a trois formes d'incompétence. Il y a l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire la personne elle-même ne sait pas qu'elle est incompétente. Parce que là, c'est ce qui pose sérieusement problème parce que c'est pas facile de l'aider. Mais il y a l'incompétence consciente, c'est-à-dire la personne sait que j'ai des insuffisances, je n'ai pas été formé dans ça, je n'ai pas assez d'expérience, il y a des gens qui trompent sur leur CV pour accéder à un poste, maintenant qu'il est déjà dans ces postes-là, à cette fonction-là, et il n'arrive plus à assumer les tâches comme je l'ai dit à la définition. Mmh. Et puis, il y a aussi l'incompétence stratégique. Il y a des gens qui se mettent avec une simulation pour éviter certaines fonctions, certaines tâches, certains travaux, pour déléguer ça aux d'autres, laisser d'autres personnes faire à leur place, travailler à leur place. Ce sont des manipulateurs, en fait. Mmh. Voilà. C'est que dans ce contexte-là, il y a beaucoup qui ont des fonctions, mais le problème, ce n'est pas la fonction. Le problème, c'est la tâche, prendre les bonnes décisions. Et ça perturbe la bonne manière de gérer le travail, ça perturbe les performances du travail, mais ça altère aussi la santé mentale des collaborateurs. Mmh. Parce que lorsque vous êtes devant un collaborateur, un supérieur ou un subalterne qui est incompétent, vous risquez d'avoir la charge du travail élevée. Vous risquez d'avoir des exigences émotionnelles parce que nous sommes des êtres humains. Oui. Nous vivons avec nos émotions. Il faut gérer maintenant vos émotions en permanence face à quelqu'un qui est incompétent. Et ça, c'est ce que je vais aider les travailleurs à savoir gérer nos amis. Mais celui qui est inconscient, là, il faut vraiment un travail de fond. C'est pour cela que je parle d'inconscient, conscient et puis simulé ou stratégique. Il faut d'abord savoir aussi poser les diagnostics. Il ne faut pas tirer des conclusions hâtivement. Ça aussi, j'insiste sur ça. Sinon, un matin, dans chaque service, il y aura des incompétents. Non, il faut être objectif. Hein, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des faits là où vous constatez que non, ici, il y a des erreurs. Une seule fois, erreur, ce n'est pas un problème. Mais si c'est répété... Vous notez, mais il faut qu'il y ait des choses vérifiables. Mm. Pas avec des émotions parce que vous n'avez pas quelqu'un, pas avec des interprétations. C'est comme s'il ne connaît pas tel que je le vois là.
Ah, il maîtrise rien.
Il maîtrise rien. Non, non. Il faut avoir des rapports, des données qui attestent que pour ces faits ici, tel jour, à telle heure, il a mal fait, il n'a pas fait, il a simulé, il a fait ceci. Et avec ces éléments, oui. Ça vous permet de tirer une conclusion pour les mettre dans le compte. De l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente ou l'incompétence stratégique, et pour savoir par rapport à son niveau. Celui qui est incompétent, il est votre manager hiérarchique, ou il est votre collaborateur direct, ou il est votre subalterne, parce que l'attitude est différente. Voilà, ça c'est très important. Si c'est votre manager, je commence par le manager, parce que souvent c'est le chef. Oui. On peut se retrouver devant un chef, parce que vous savez, bon, nous sommes en Afrique, nous avons... nos défauts à nous, qu'il faut accepter parfois, les gens accèdent à des postes sans parfois suivre le cursus ou le cours normal du travail. Je prends l'exemple. Dans l'armée, il y a des grades.
Oui.
Il y a des grades, vous commencez quelque part pour monter. En dehors des faits militaires, on sait qu'il faut, pour passer à tel grade, il faut passer comme
passer
ça.
Par
à la fonction publique, il y a des grades, il y a des délais, il y a des temps pour ça. On sait que pour arriver à tel grade, il faut passer par ça, ça, ça. Il y a aussi l'expérience qui compte. Mais même dans l'administration, dans les entreprises privées, il y a toujours une structuration. Mais parfois, les gens parachutent. Très souvent, les gens qui arrivent à ces problèmes d'incompétence, ce sont les managers qui sont parachutés.
Qui ont été recommandés.
Recommandé, admis politiquement, membre ça je me permets de le dire, oui, parce que il y a des gens qui n'ont jamais géré une rue, même pas chef de promotion à l'université ou dans son école, n'a jamais été chef de classe.
Et il se voit parachuté,
il est bourgmestre, gouverneur, il est ministre, il est voilà. Commandant, et ça a des effets sur ce que nous parlons aujourd'hui. Mm. Et ça perturbe le fonctionnement de l'entreprise, de l'entité, de la structure et du pays. Ça dit, c'est quand même important d'en parler parce que ça fait aussi du patriotisme. Il faut encourager les compétences, il faut encourager la méritocratie.
C'est ça.
Voilà pourquoi j'insiste sur ça. Il ne faut pas le faire par des généralités. Hein, parce que vous n'aimez pas quelqu'un, parce que sa façon d'habiller, vous le mettez dans le compte des incompétents. Non, il ne faut pas généraliser.
Faut pas généraliser.
Non, non, là je l'ai dit. Et il ne faut pas faire aussi ce que nous appelons en psychologie les distorsions. Faire des corrélations. Parce qu'il a fait ça, ça veut dire ça.
Ça veut dire que...
Non,
voilà.
Non. Ici, nous parlons de l'incompétence par rapport aux connaissances.
Ça doit être basé sur des faits, vous avez
dit. Des faits. C'est-à-dire, oui. Par rapport à sa fonction, il est appelé à faire quoi? Qu'est-ce qu'il ne fait pas bien ou ne fait pas? Là, vous le soulignez, il est appelé à faire tel rôle, il n'a pas fait ça, tel jour.
Oui.
par rapport aux tâches, il devait exécuter telle tâche et cela, il n'a pas fait, il n'a pas bien fait. Vous notez tout. Et par rapport aux décisions, parce que j'insiste aussi sur les décisions, il y a l'incompétence dans les décisions. Ça perturbe le travail. Parce que si tu es un chef, un manager, c'est quelqu'un qui doit être apte à bien décider, à analyser les faits. Oui. Mais il y a des chefs qui décident par des généralités. Parfois par des omissions. Ils ne posent pas des questions, ils concluent. Voilà, c'est que ça, c'est de l'incompétence et il faut relever les faits pour mettre ça en dehors des émotions. Parce que les émotions perturbent notre intelligence. Ici, j'ai dit, il faut être objectif, ça veut dire qu'il faut que les émotions soient à côté. Mmh. En tout cas, je supplie à tous les travailleurs pour détecter un incompétent autour de vous, la hiérarchie, collègue ou subalterne, mettez d'abord vos émotions à côté, restez sur les faits, sur l'objectivité. Et c'est très important de noter. J'insiste sur ça parce que il faut aller dans les solutions. Parfois, il faut aller plaider, il faut médiater. Et puis, parfois, il faut aller vous plaindre. Mmh. Mais vous n'allez pas vous plaindre. On risque de croire que vous êtes en train de calomnier l'autre, de créer des problèmes.
Vous êtes jaloux,
son poste.
Vous êtes jaloux.
Non. Oui. C'est pour vous protéger. Je dis ça aux travailleurs. Notre santé mentale est plus que les salaires. C'est qu'il faut vous protéger. Un collègue, un travail, un chef incompétent, c'est une charge de travail sur vous. C'est une charge émotionnelle sur vous. Et il faut le gérer pour un temps, le temps de penser aux solutions. Mais parfois, il n'y a pas de solution parce qu'il y a des incompétents inconscients. Il y a les orgueillés, il y a les chefs mégalomanes, comme si tous les chefs incompétents, ils brandissent maintenant son autorité. Il dit, c'est moi le chef ici,
c'est moi le chef qui décide ici. Il veut vous mater.
Ça manque ce qu'on appelle dans les risques psychosociaux l'autonomie. C'est-à-dire, il ne veut pas votre créativité, il ne veut pas vous écouter, il n'a pas l'écoute, il communique mal et ça crée des problèmes. C'est que là, vraiment, c'est dans les diagnostics, il faut savoir poser le diagnostic par rapport à un chef.
Un instant, on va accueillir les auditeurs. Comment travailler avec des personnes incompétentes? Chrysostome, vous êtes à Ituri. Victor Nzouzi nous appelle depuis Mbazangungu et Maître Patrick Odia depuis Lubumbashi. Monsieur Chrysostome, bonjour. Merci d'ouvrir votre micro. Quelle est votre préoccupation?
Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, Allô, bonjour, j'espère que vous m'entendez.
Oui, on vous écoute, allez-y.
En tout cas, merci beaucoup, je salue notre invité, il est vraiment pertinent et je prends toutes ses remarques en considération. Parce qu'il nous arrive, il y a un fait que nous devons tous admettre, aujourd'hui, les gens incompétents sont presque partout. Et c'est un fait que nous devons les reconnaître. Par contre, si vous avez un chef incompétent que vous, c'est une opportunité pour vous. Et il ne faut même pas essayer de les surpasser, parce que ça fait retourner contre vous. Oui. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir supérieurs. Mais ces gens-là sont toujours conscients de leurs incompétences. Si vous vous mettez, vous les mettez en première position, ils peuvent toujours revenir auprès de vous, mais n'essayez pas de les surpasser. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne le sont. Et là, vous atteindrez une position supérieure. Par contre, si vous commencez à les combattre, c'est à votre départ. Vous devrez flatter son orgueil. Si vous êtes plus intelligent que lui, par exemple, prétendez le contraire. Faites en sorte qu'il apparaisse plus intelligent que vous. Sinon, vous allez obtenir l'effet inverse. Mm. Donc, j'appelle à tous les gens qui sont avec des gens incompétents de ne pas les calomnier parce que là, vous allez perdre votre poste inutilement. Reconnaissons le fait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui sont nés pour être des rois, peu importe leurs compétences. Et il y a aussi des gens qui sont faits pour être à côté des chefs. Ce sont ces gens-là qui sont souvent compétents. Alors, admettons ce fait-là. Si vous n'êtes pas né pour être chef, né pour être à côté des chefs, admettez le fait-là. Mmh. Donc, peu importe votre compétence, moi, je suis pour ceux-là qui savent vivre à côté des gens-là. Ça nous est toujours arrivé à nous tous, même là où nous travaillons également. Nous avons aussi des supérieurs que vous sentez que, non, intellectuellement, il n'est pas au-dessus de vous, mais il a une position supérieure à vous. Vous n'allez même pas faire en sorte que vous brandissez votre intelligence auprès de lui parce que vous allez vous faire évisser inutilement.
Oui. Alors, il risque de vous écraser.
À tous.
Merci beaucoup, Chrysostome.
Et j'appelle les autres à son point de vue.
Merci beaucoup. Comment travailler avec des gens, des personnes incompétentes? Victor Nzouzi, vous êtes en Mbazangungu. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs, auditrices. En fait, pour moi, je pense qu'il y a un sérieux problème, comme le disait, mais j'ai pas très bien apprécié lorsque l'invité a dit en Afrique, nous avons nos défauts. Ben, nous ne devons pas continuer à assumer ces défauts. Il faut que l'Afrique sorte de ces défauts-là, ou par clientélisme, par je ne sais pas, voilà, on engage quelqu'un. Mais moi, mon problème, c'est combien de fautes il faut pour que quelqu'un soit licencié. On prend les cas de médecins. Aujourd'hui, il laisse les bistouris là-bas, demain, oh là là, demain, il laisse, et après, ça fait des morts. Mmh. Et combien de fautes il faut et où on doit continuer à tolérer? Ça, c'est un problème. Mmh. C'est le cas aussi, par exemple, de nous sommes, moi je suis agriculteur. Vous prenez quelqu'un, j'ai pris quelqu'un dernièrement pour aller désinfecter mon champ de niébé. Et il est arrivé, il a mis trop de produits et tout a brûlé. Et celui-là, on me dirait qu'il a toujours l'habitude de le faire. Mais c'était un agronome. Alors, allez-y comprendre.
Oui.
Donc la compétence, c'est tout un problème. Mais au-delà, est-ce qu'avec le recyclage, lorsque quelqu'un a été mal formé, et là nous devons interpeller nos universités, nous devons interpeller nos écoles. Ce n'est pas seulement un problème de clientélisme ou bien de népotisme, mais aujourd'hui l'éducation, la formation dans notre pays, mais c'est une formation bâclée. Et moi je crains que demain, avec toutes ces incompétences, que demain nous repassions. J'écrivais un article sur le néocolonialisme. Mais nous allons rentrer dans le colonialisme avec des incompétents qu'on met, qu'on place. Moi, je trouve, s'il y a, par exemple, vous êtes dans un parti politique, comme maintenant le poste, c'est le parti politique, vous voulez donner un candidat, mais prenez le meilleur dans votre parti politique. Si c'est dans votre famille, prenez le meilleur. Donc, c'est un peu insupportable de travailler avec un incompétent, sinon, ben, peut-être le recyclage. Mais c'est insupportable, parce que si vous êtes dans un dispensaire, nous avons des dispensaires ici où les gens meurent,
oui.
Parce qu'il y a des erreurs des corps médicaux. Nous avons des champs d'agriculture où tout est brûlé. Nous avons les 145 territoires ici. Je suis à côté d'une école. Mais à cause des incompétents, on a recruté je ne sais quel genre d'entreprise lors des passations des marchés. L'école est là, bloquée, épée voisin, bloquée depuis 2023. Mais alors, quelle perte c'est pour le pays, lorsque l'argent a été comme ça dilapidé.
Merci beaucoup,
donc,
monsieur
il faut vraiment
Victor.
Que notre invité en parle.
D'accord, merci.
Non, ça fait très mal avoir des incompétents. Non, on ne peut pas continuer à ça. On ne peut pas continuer.
Merci monsieur beaucoup. Victor. Maître Patrick Odia, depuis Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les incompétents, maître Patrick?
D'ailleurs, toute personne au début de son travail rencontre toujours des difficultés. Moi, j'appelle ça en termes de défis à relever, peut-être avec un tel ou un tel programme, par exemple. D'où la première des choses, dans les ressources humaines, dans la stratégie des ressources humaines, il faut prévoir un programme d'initiation en termes de formation également. Ça, c'est la première des choses. Mmh. Alors, comment travailler avec les personnes incompétentes, les astuces et les conseils? La première chose d'abord, sur base de quels critères avons-nous décidé de qualifier telle personne incompétente? C'est peut-être parce que le résultat ou le travail rendu par telle personne ne rencontre pas les idéaux, je vais dire les objectifs fixé en termes de dans ces prérogatives, par exemple. Dans ces moments-là, on pourra dire telle personne n'arrive pas à faire. Et lorsque la personne n'arrive pas à atteindre ses objectifs professionnels fixés au sein d'une entreprise, d'une société, il faut poser un diagnostic pour savoir également quels sont les grands problèmes qui se situent. Peut-être aujourd'hui, je peux, l'efficacité de mon travail peut également baisser à beaucoup de facteurs. Il ne s'agit pas tout simplement de déclarer haut et fort en premier que cette personne est incompétente, mais il faut également poser un diagnostic. Je vais y aller par un petit exemple rapidement, par exemple. Il y a un grand basketteur qui jouait très très bien, mais à un moment, l'entraîneur a constaté que les basketteurs ne jouaient pas très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il l'a amené à côté, le basketteur lui a dit, ça fait 3 semaines, moi et mon épouse, ça ne marche pas et nous sommes en instant de divorce. Voyez-vous que cette incompétence permanente, je vais dire permanente ou temporaire, elle n'en dit pas à la nature ou au manque de connaissances d'une personne, de ses basketteurs, mais à une situation à la maison. Et c'est ça, c'est revient dans une société, il devait y avoir toujours un psychologue qui devait suivre un peu. Donc, les facteurs psychologiques également peuvent faire en sorte que cette personne soit déclarée
incompétente.
Ou devienne un peu inefficace ou incompétente également. Donc, c'est ici le lieu d'interpeller toutes les entreprises, toutes les sociétés, l'État et consorts, d'organiser au moins quelques psychologues qui peuvent fournir également les conseils et les suivis à tous les employés. Ça, c'est la première question. La deuxième question, derrière chaque incompétence se cache toujours manque de suivi, manque de mentorat, manque de tutelle, manque de formation. Le manager, les directeurs, les sous-directeurs, les chefs, les superviseurs, qui pensent que l'autre est incompétent, je pense qu'il devait d'abord initier une série de formations, non seulement initiales, mais aussi continues. C'est ainsi qu'à dans certaines entreprises ailleurs ou partout, même en RDC ici, il y a toujours des séries de rattrapage également, des formations et séries. Et même là où parfois nous autres nous évoluons, il y a toujours des formations continues pour essayer de ramener les niveaux également. Alors, autre chose, il faut favoriser, c'est que Dr. Michel Mouvoudi de la Banque mondiale parle de la communication horizontale et verticale. La communication verticale et horizontale. Est-ce qu'on fournit assez d'informations, on communique assez? C'est ça la question également. Moi, je pense que d'une part, s'il y a des psychologues qui suivent, s'il y a des formations qui s'en suivent également, mais il suffit également d'organiser une communication par rapport aux responsabilités, voire ce que nous appelons, ce que les anglophones appellent personne par tête à tête. Donc, un entretien tête à tête pour essayer de remonter le moral, les féliciter, non pas se focaliser sur les lacunes, mais sur les objectifs que la personne doit atteindre également. C'est un peu, un tout petit peu, ce que nous pouvons faire. Pour aider la personne qui est qualifiée incompétente, savoir d'abord est-ce que cette incompétence est due à quoi, deuxième des choses une formation, troisième des choses également un tête-à-tête, pourquoi pas une communication verticale
merci,
et horizontale.
Merci beaucoup.
On doit quitter la position du manager, descendre sur la position du leader.
Merci Maître Patrick Odia. Nathan Kingolo, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, monsieur Jolie, j'ai une petite question à poser à notre invité.
Oui.
Concernant l'incompétence. Quelle attitude on peut adopter pour aider nos ministres qui sont incompétents à améliorer ses compétences?
Qu'est-ce qui vous prouve que ce ministre-là est incompétent?
Mais vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. C'est un peu compliqué. On ne peut pas tout citer, mais vous savez, vous êtes du journaliste. Vous voyez, ils sont à 2-3% de ces obligations.
Bien, merci. Coach Julius Lumba, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Je salue tous les intervenants, M. Chrysostome, Victor, Maître Patrick, surtout, et M. Nathan. Bon, si je dois ramasser ce qu'ils ont dit, flatter l'orgueil de son manager ou de son chef,
incompétent,
c'est pas vraiment la solution. Ici, en fait, c'est quoi? C'est comme a dit Maître Patrick, hein, il faut arriver à poser le diagnostic. Je l'ai dit ici, il faut relever les faits. C'est-à-dire, prenez votre temps, n'agissez jamais sous émotion ou rapidement, parce que c'est un problème qui demande un management, dont je vais expliquer ici. C'est que réunissez les faits, tel jour, telle date, telle heure, tel ceci, il y a eu ces faits. Gardez ça par écrit parce qu'on a des objectifs. Vous pouvez manager pour aider les chefs ou les collaborateurs, mais vous pouvez aussi vous protéger parce que demain, il peut y avoir des répercussions, tout ça, pour vous justifier.
C'est ça.
Ouais. C'est que c'est dans ce cadre-là que j'insiste pour avoir des faits clairs. Maintenant, je reviens pour les chefs. J'ai noté leurs préoccupations, mais moi, j'aimerais apporter la solution. D'abord, il faut éviter ce que les juristes appellent la délation. Il ne faut pas critiquer les chefs ou même les collaborateurs en public ou avec les autres camarades.
Là, c'est vous créez la guerre pour
vous. Vous aggravez la situation.
Oui.
Il va se braquer. Notre esprit nous protège. Lorsqu'on se sent menacé, agressé, chacun cherche à se protéger. Alors qu'il est votre chef, c'est ce que l'autre a dit, vous risquez d'avoir des problèmes. Non. Ici, c'est vous réunissez les formations, les éléments, pour réfléchir comment l'aborder. Ça, c'est très important. C'est qu'il ne faut pas en parler ou répéter. Non. Ça c'est déjà multiplier les problèmes. J'ai dit ici, il faut éviter de mettre vos émotions là-dedans et les généralités. Il ne faut pas généraliser des spéculations, des préjugements, pas des a priori. Et puis, il ne faut pas vous approprier l'incompétence de l'autre. Parce que ça, on s'en pose problème, c'est ce que notre ami vient de dire aussi, parce qu'il y a des gens qui rentrent à la maison, il commence à parler, mais mon chef, il est incompétent.
Il est incompétent,
vous allez souffrir des problèmes de stress, vous aurez l'hypertension, vous serez malade pour un problème qui ne vous appartient pas. Ça fait, il y a un chercheur qui a dit que la colère, c'est une punition que vous vous infligez pour une faute commise par quelqu'un d'autre. C'est que c'est la même chose. L'incompétence, c'est votre chef ou votre collaborateur, c'est pas vous. Ça, j'insiste sur ça pour protéger votre santé. Maintenant, moi, je suis d'accord pour la communication. C'est ce que j'ai dit. Il y a un problème d'écoute et il y a un problème d'orientation sur les objectifs. Mais pour votre chef, je commence vraiment, j'insiste sur ça. D'abord, il faut trouver à quel moment, comment lui parler. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que ça soit au cours d'une réunion. Il ne faut pas que ça soit lorsqu'il est fâché, lorsqu'il t'a donné des instructions à faire. Non, il faut qu'il y ait du recul, trouver un temps mort, un temps que vous sentez qu'il est libre ou bien il n'y a pas d'urgence pour le voir. Il faut le prévenir que vous voulez parler avec lui. Ça lui prépare aussi mentalement à vous écouter. Et lorsque vous serez devant le chef, au lieu de flatter son orgueil par rapport à son incompétence, non, il faut lui mettre devant ses responsabilités. Il faut lui dire, chef, c'est avec tout le respect, avec tout honneur. Je sais que c'est vous le chef aussi. C'est vous qui décidez. Moi, je suis votre collaborateur. J'ai aussi mes responsabilités. Mais dans cette entreprise, moi aussi, j'ai apporté que ça marche. C'est par les soucis que ça puisse marcher, que nous allons aller de l'avant.
Par exemple, pour tel dossier, oui, je pense qu'on peut faire ceci. Ou ne pensez-vous pas qu'on peut...
Voilà. Les dossiers, je vais arriver à... Mais je donne une stratégie. Nous, en psychologie, on appelle ça entrer.
Oui.
C'est-à-dire, il faut parler à la personne des choses qui l'intéressent, qui sont à son intérêt. C'est sa fonction d'abord. Il faut vanter sa fonction.
Il faut lui montrer que c'est lui le chef.
C'est lui le chef. C'est qu'il faut déjà commencer par confirmer ça et que vous acceptez que c'est lui le chef, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui commande.
Oui.
Deuxièmement, parler déjà de l'impact, c'est-à-dire que de l'entreprise. Vous avez intérêt que ça marche. Vous cherchez que ça marche, votre travail ça marche pour que nous allons de l'avant.
Oui.
C'est dans ce cadre-là. C'est-à-dire, avant de présenter votre problème, donnez ces deux éléments au chef. Reconnaissez son titre, sa fonction, et justifier déjà que ce que vous allez dire, c'est pour l'intérêt de l'entreprise, c'est pour son intérêt, pour que ça aille de l'avant.
Et ça les mettra déjà en confiance.
Voilà. Ne commencez pas par des esprits. Non, non, non. Commencez d'abord par les mettre en confiance, parlez de lui et de l'entreprise ou de la société en positif. C'est dans ce cadre-là maintenant que vous allez lui dire que non, j'ai quelques faits et j'ai aussi des suggestions.
Oui.
Il ne faut pas dire que là, j'ai constaté des problèmes, il y a des problèmes, je vais vous expliquer. Non, il faut annoncer déjà d'emblée que vous avez constaté quelques faits et que vous avez des propositions de solutions. S'il peut vous permettre de lui exposer ça. Cette question est très capitale en stratégie. Parce que, comme vous l'avez déjà préparé, sûrement il va dire oui. Mais qu'il sache que vous ne venez pas seulement avec les problèmes, qu'il sache que vous venez aussi avec les solutions. Ça veut dire que si vous constatez que votre chef est incompétent, votre collègue est incompétent, n'amenez pas seulement les problèmes, amenez aussi les solutions. Moi, j'ai eu un chef qui me disait, non, 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 les problèmes ne m'intéressent pas, moi, je veux des solutions. Moi, je suis coach mental, en sophrologie, le coach est chargé des solutions. Moi, je ne gère pas les problèmes.
Ne venez pas avec des problèmes.
Voilà. C'est que j'insiste sur ça. Ça fait partie d'un problème, mais lorsque vous l'exposez, il faut annoncer que vous avez constaté qu'il y a ça, 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 et j'ai des
voilà ce que je propose pour résoudre le problème.
Maintenant, vous détaillez les faits. En tout cas, restez impartial, en dehors des émotions. Ne montrez pas que ça vous choque. Je sais que ça peut vous choquer, ça peut vous mettre mal à l'aise, vous pouvez souffrir de ça, mais lorsque vous présentez les faits,
faut se maîtriser.
Il faut se maîtriser, parler des faits seulement. Par rapport à telle tâche, j'ai constaté qu'il y a ça, ça, ça. Et les conséquences, c'est que vous voyez, par exemple, là, ça nous a pris trop de temps. Ça nous a pris trop de temps. D'un tel client, c'est plein. Ouais. Et ça, ça, ça. Et tel collègue a eu des problèmes. Tout ça, tout ça. Vous détaillez ce que vous avez constaté. 3-4 exemples. Avec des exemples.
Oui.
Maintenant, vous dites que moi, je voudrais contribuer avec mes propositions. C'est à vous d'apprécier s'il faut l'appliquer ou pas.
Voilà.
Ça, c'est une autre stratégie.
Lui montrer que c'est lui qui décide.
Il faut toujours lui laisser la main. Vous présentez vos propositions en lui disant que c'est à vous d'apprécier ce qu'il faut faire ou pas.
Oui.
Moi, avec mes chefs, lorsque j'ai un chef, c'est toujours comme ça que j'ai fait mes propositions. Je lui dis toujours, c'est vous qui décidez. Moi, voilà ce que je pense. C'est à vous de savoir ce qu'il faut faire ou pas.
Et là, vous n'avez pas flatté son orgueil.
Non, non. Moi, je fais mon travail. Vous savez, peut-être c'est... Bon, je ne dirais pas que c'est un secret. Moi, j'ai eu des promotions, j'ai eu du travail. Parce que j'étais dans un cabinet ou dans un bureau où j'étais la seule personne qui disait la vérité au chef. C'est parce que j'avais cette stratégie. Tout le monde était dans la flatterie, dans le djalélo, mais lorsqu'il s'agissait que je puisse prendre la parole, je disais, chef, avec tout le respect, voilà, pour notre intérêt, pour le bureau, voilà moi ce que je pense. Mais c'est à vous de décider. Mais très souvent, je le faisais à deux. Je demandais toujours l'occasion pour aller le voir dans son bureau. Et la personne savait. Lorsque j'arrive au bureau, et je commence avec ces étapes ici que j'ai dit. Je confirme que c'est lui le chef. Je confirme que c'est pour l'intérêt du travail. Je lui dis que j'ai des problèmes à te poser et j'ai des propositions de solutions. Et lorsque j'arrive aux solutions, je lui dis c'est à vous de décider. Moi, je vous mets ça sur la table. Vous êtes libre de l'appliquer ou pas.
Et souvent, qu'est-ce qu'il répondait? C'était quoi sa réponse?
D'habitude, c'était me remercier.
Ok.
Et même lorsqu'il y avait des problèmes avec tout le monde, les gens ne comprenaient même pas pourquoi est-ce que ce monsieur était toujours là, pourquoi est-ce que notre chef gardait. Non, c'est parce que le chef savait que moi, je l'aidais. Et dans la vérité, je ne le flattais pas. Je lui disais non, c'est vous les chefs, mais pour moi, voilà mon avis. Voilà ce que j'ai
compris. Parce que les incompétents, vous ne savez pas les enlever là. Ils
non, non, là. Très souvent, ils ont des racines solides. Hein.
Oui, oui.
Il y a toujours une parapluie qui les protège. Oui. C'est que je voulais dire ça, mais ce qui est important, lorsque vous présentez les faits, après, présentez aussi des solutions. Mais parmi les solutions, il y a la première solution que nous appelons les recadrages. C'est-à-dire, il faut recadrer la situation, mais ça dépend. Pour les chefs, ça serait un recadrage indirect. Pour les collaborateurs, ça peut être un recadrage direct. J'explique. Un recadrage, c'est lui ramener dans les faits et changer de sens ou de contexte. Mais pour les chefs, il faut le donner comme un exemple pour quelqu'un d'autre. En fait, vous lui parlez. Mais vous donnez un exemple comme si vous étiez en train de parler d'un autre collaborateur, d'un autre chef. Comment est-ce qu'il peut résoudre ces problèmes-là? C'est-à-dire, vous les mettez de votre côté pour parler d'une autre personne.
Un exemple.
Un exemple, par exemple, les chefs imposent des décisions sans écouter, sans réunion. Voyez. Et que ça perturbe le fonctionnement, il fallait qu'il écoute les autres.
Oui.
Mais lorsque vous arrivez maintenant aux solutions, vous dites non. Bon. Voyez, par exemple, supposons que les chefs de telle direction ou de tel service avaient un problème X et qu'ils prennent la décision sans discuter avec les collaborateurs, ils auront du mal à les digérer et à les exécuter. Alors que s'ils avaient réuni les travailleurs ou les chefs, posé les problèmes, les écouter et puis après annoncer la décision, il y aurait une participation et ça serait une facilité. En fait, vous lui dites ce qu'il doit faire. En parlant d'une autre personne.
D'accord.
C'est, nous, bon, même en hypnose, on appelle ça hypnose directe. C'est-à-dire que tu peux éduquer quelqu'un, tu peux enseigner quelqu'un à faire ça comme si vous parliez à un enfant.
Ouais, d'accord.
En fait, c'est une méthode pédagogique.
C'est comme si vous parlez, d'une autre personne.
D'une autre personne voilà. Incompétente.
Voilà.
Comment est-ce qu'il a arrangé, comment est-ce qu'il peut arranger.
Voilà.
Mais lui, pour qu'il en bénéficie. Ça, c'est pour les chefs. Mais les collaborateurs vont être directs. Mais après, il y a aussi, il faut, c'est préparer à la confrontation.
Un instant, on va accueillir les auditeurs. Comment travailler avec des personnes incompétentes? Monsieur Louis, vous êtes à Kinshasa. Alain Benoît Kazadi, vous êtes aussi à Kin. Monsieur Louis, bonjour. Monsieur Louis n'est plus là. Monsieur Alain Benoît Kazadi, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Merci d'ouvrir votre micro, monsieur Alain Benoît Kazadi. Monsieur Alain Benoît n'est plus là aussi. Alors j'ai la réaction d'un internaute, monsieur Stéphane, qui nous dit ceci. Je suis enseignant d'anglais, j'ai été dirigé par un préfet faussaire au cours d'une année scolaire. Ayant décrié son niveau, il est allé nous accuser auprès de notre sous-provède. Ce dernier a pris la décision de nous exclure de l'enseignement, moi et mon collègue enseignant d'histoire. Ayant porté ces problèmes au niveau du gouverneur de province, une enquête a été lancée et on a découvert qu'on avait raison et on a été rétabli dans notre travail. Alors comment l'invité apprécie ce genre de problèmes?
Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je ne voudrais pas qu'il y ait déjà accusation. Parce qu'il y a des étapes, c'est pour cela que je parle de l'entretien, qui est quand même cette discussion-là, cet échange-là. Et apporter, présenter les faits, proposer des solutions.
Des solutions.
Voilà. Mais il faut vous préparer à la confrontation. C'est ce que je suis en train de dire. Ça dit quoi? Les incompétents, très souvent, bon, parfois il ne va pas digérer, parfois il ne va pas accepter. C'est pour cela, après la réunion, faites tout pour lui transmettre une synthèse de ce que vous avez parlé. Par écrit, c'est très important. Même par mail, faites un document au cours de nos échanges, si je me permets. Voilà, nous avons parlé de ça, ça, ça. J'ai dit ça, j'ai proposé ça. Pour garder les traces. L'administration, c'est par écrit. Voyez ce qu'il dit là. Vous êtes renvoyé, mais le temps de faire des recours, vous aurez des répercussions de santé, des répercussions financières en famille parce que vous n'êtes plus travaillé. Non. Lorsque vous apportez des solutions comme ça, avec un incompétent, après la réunion,
faut garder
vous lui écrivez.
Vous faites la synthèse de.
Vous faites la synthèse de ce que vous avez dit, de ce que vous êtes dit. Vous lui transmettez ça juste pour remémorer. Mais dans l'entretemps, vous aurez une archive. Si vous le faites par mail, vous pouvez avoir ça n'importe où. C'est très important dans l'administration.
Ça vous protège aussi.
Ça vous protège aussi et ça les rassure aussi que vous contribuez. Mais vous ne mettez pas des copies. Ça, j'insiste. Moi, je suis un ancien dans l'administration.
Il ne faut pas copier d'autres.
Non, il ne faut pas copier des gens. Non, ça, ce n'est plus aider. Ici, nous sommes d'abord dans la solution.
Oui.
Voilà, c'est qu'il faut aller dans la solution. Pour les collaborateurs, il faut savoir si c'est un problème d'expérience pour qu'ils soient formés ou recyclés ou des compétences de la formation de base. Ouais. C'est que avant d'apporter des solutions, parce que vous apportez des solutions, mais il ne saura pas l'appliquer, il ne saura pas faire s'il ne sait absolument rien.
Oui.
C'est dans ce sens-là, s'il s'agit vraiment de l'incompétence, il faut vous référer au service des ressources humaines. C'est eux qui sont chargés de gérer les compétences des travailleurs. C'est eux qui savent orienter, réaffecter par rapport à un problème. Et ils vont vérifier, amener les faits, poser les problèmes et ils sauront comment l'interpeller. Il y a aussi, en dehors des ressources humaines, il y a les psychologues du travail, les médecins du travail. Vous pouvez aussi leur poser un problème si quelqu'un...
Est-ce qu'il y a des psychologues dans toutes les entreprises,
nous parlons,
dans l'administration publique, par exemple?
Nous parlons des normes.
Oui.
Je sais que notre administration publique est en train de s'organiser pour ça. Je suis de ceux qui sont en train de contribuer pour qu'il y ait une prise en charge psychologique au travail. Oui. Je sais que ça va arriver. Maintenant, je vais y arriver.
Monsieur Victor a dit ceci. Oui. Il faut attendre qu'un médecin compétent commette combien des erreurs avant de le faire partir. Il va tuer combien de personnes avant de le foutre dehors.
Bon, moi, je vais dire quelque chose. Vous savez, peut-être il va dire que non, je réponds comme ça parce que je suis médecin. Non. Ici, la compétence est liée à la connaissance, à la formation de base. Un médecin est censé faire ce que tout médecin doit faire. Et même plus, parce que la médecine, c'est une science, c'est aussi un art. Moi, j'ai fait des choses que même il y a des spécialistes qui n'ont jamais fait ça. Je l'ai fait, j'étais généraliste. Ouais, c'est que un médecin, c'est comme un ingénieur, tu dois faire ce qu'un ingénieur doit faire. C'est ce que nous parlons des compétences. Mais tu ne peux pas le faire au même niveau que tout le monde. Il peut y avoir des niveaux. Mais il faut savoir s'adapter.
Mais il y a des faussaires qui ont des faux diplômes. On les attrape.
Mais je ne voudrais pas qu'on généralise.
Oui.
Il y a des faussaires presque dans tous les domaines. Mais il faut aller d'abord dans la formule que celui-là est médecin, il est bien formé, il est là pour travailler.
Oui.
Mais il y aura des gens qui ne seront pas très bien travaillés. Parfois c'est par négligence, parfois c'est ils ont d'autres problèmes. L'autre a parlé de stress ici, il a des problèmes à la maison, tout ça, c'est que.
Problème de divorce.
Voilà, c'est pour cela. Moi, je reste dans la compétence, parce que s'il a des problèmes en famille, il n'a qu'à régler ça. Mais ici, on parle de la compétence. Moi, je voudrais que on ne va pas tolérer qu'un médecin puisse commettre des fautes ou des erreurs, même une seule fois. Parce que la vie, là, c'est un service où on travaille sur la vie déjà.
Oui.
C'est que moi, je suis de cette école-là qu'on ne va pas tolérer même une seule faute, même une seule erreur. Mais on doit savoir que c'est un humain. Il faut étudier les paramètres et les contours. Ça, je suis d'accord. Mais donner les nombres, je ne peux pas donner. Moi, c'est que je vais apporter des solutions. Maintenant, vous avez fait les feedbacks. Vous avez fait ça par écrit. Mais il faut aussi qu'il y ait un suivi. Si c'était une formation, si c'était de l'accompagnement, moi, si vous êtes le manager, le chef, prévoyez un accompagnement en binôme. C'est-à-dire, quelqu'un qui est incompétent, il faut lui adjoindre quelqu'un qui peut l'aider. Mais en expliquant à l'autre son rôle. Il ne faut pas les mettre ensemble sans expliquer pourquoi est-ce que vous les avez associés. Nous, on a eu à travailler quelque part où vous voyez, par exemple, lorsque vous êtes des gardes, on vous met quelqu'un qui est plus performant que vous ou quelqu'un qui est moins, mais on vous dit c'est pour l'aider. C'est que
il est en train de vous coacher.
Voilà. Mais l'autre doit accepter ça, doit les savoir. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait cette communication-là. Et le travail en binôme est fait aussi surtout pour ça. Pour épauler l'autre, aider l'autre, coacher l'autre, l'accompagner. Et ça fait suivre si la personne prend conscience. Ça, c'est très important. Il faut aussi qu'il y ait des encouragements. Parce que la personne qui est incompétente, qui a des difficultés, qui ne fait pas très bien sa tâche, et que vous l'aidez à améliorer, il ne va pas améliorer pour vous satisfaire à 100%. Il va commencer par 30, 40, 50, 60, mais il faut l'encourager. Nous appelons ça les petites victoires. Il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais lorsqu'il fait un pas dans le sens de la solution,
il faut l'encourager. Ça va le motiver
d'avancer. Ça va le motiver de continuer. Mais très souvent, c'est comme dans nos maisons. Quelqu'un que vous reprochez, vous lui dites ce qu'il faut faire, il le fait peut-être à moitié vous vous fâchez, vous découragez encore, vous criez sur lui. Non, ça c'est une mauvaise façon d'apporter une solution. Je dis ça surtout au manager, au chef, au dirigeant.
Oui.
Lorsque vous aidez quelqu'un à corriger, à améliorer, il faut l'accompagner dans les solutions, à savoir que, je vais dire quelque chose de psychologie, c'est ça la différence entre un débutant et un expert. Un débutant fait les choses par étapes, telles que c'est prévu.
Mmh. Il apprend de ses erreurs.
Un expert connaît les raccourcis. Si un débutant, c'est comme un élève, on dit 5 multiplié par 10. Il fait 5 plus 5 plus 5 plus 10 fois.
Mmh.
Et un expert, c'est quelqu'un qui sait que comme c'est multiplié par 10, j'ajoute un 0. C'est ça un expert. Un expert connaît les raccourcis. C'est qu'il peut les faire rapidement. Parce que dans son cerveau, il a aussi des raccourcis.
Mmh.
Mais ne demandez pas à un débutant de faire des raccourcis. Ça, c'est une erreur de notre
enseignement. Ça veut dire qu'il y a des incompétents qui peuvent s'améliorer à la
longue. Qui peuvent s'améliorer, mais il faut l'accompagner parce qu'il ne va pas s'améliorer. Bon, rarement, il peut faire 100% de... Non, il faut être tolérant qu'il puisse le faire progressivement.
Un instant, on va accueillir Elvis Londola depuis Kinshasa. Bonjour.
Oui, allô, bonjour, j'ai dit. Bonjour aussi à notre invité.
Oui, on vous écoute, Elvis.
Ouais, et c'est très important ce sujet, surtout nous vivons dans un monde où il y a des parapluies, hein. On admet tout, on peut admettre tout, mais les astuces que le coach a dit, ce sont les astuces à suivre, mais il faut aussi avoir des tacts. Les tacts, à d'autres termes, c'est aussi avoir les mobiles positifs, toujours quand vous voulez faire cela. Parce qu'il y a l'un de nos auditeurs, l'un de nos compatriotes qui aussi a évoqué aussi les cas des personnes qui sont nommées aveuglément. Par exemple, politiquement, les gens sont nommés. Alors, maintenant, pour aller vous faire face à quelqu'un qui a été nommé, par exemple, par une ordonnance d'une telle et telle personne, c'est difficile, vous qui n'avez aucune surcharge ou vous qui n'avez pas de soutien. C'est pourquoi, et dans ce sens, je voulais aussi demander au professeur, parce que nous voyons ceci. Vous voyez les artistes musiciens, hein, quand ils recrutent les gens, même si le petit frère de sa femme est gamiste et qui n'a pas de capacité, il ne peut pas être recruté. Mais dans notre pays, il y a des attributs, on cache les noms, il y a des entreprises où les DG n'arrivent même pas à vous terminer une phrase en français. Hein? Alors tout ceci, on admet, mais comment pouvons-nous espérer peut-être qu'on peut avoir un jour et que la gestion du pays puisse aller dans le bon sens? Parce que ce que l'invitant vient de nous dire, hein, nous peut-être qui sommes peut-être censés être intelligents ou nous qui avons peut-être quelque chose à apporter à ceux qui nous dirigent, mais de quelle manière pour nous aussi, parce qu'il y a de ces gens-là qui sont 5 à 4 ans dans une entreprise, ils peuvent peut-être attendre la promotion, pas, ils disent non, un nouveau DG arrive, alors que les premiers des échelons, il a aussi parlé de l'armée, pour que quelqu'un puisse être nommé lieutenant, il y a un cursus, mais il y a de ces choses-là qui se font que nous admettons, quelqu'un est nommé ministre, dans son CV, il n'a jamais travaillé dans une société publique. Il n'a jamais assumé il n'a jamais metté un capital de l'école. Alors maintenant, il est chef de tout le monde. Alors dans ce sens, c'est là que nous retrouvons peut-être. Il y a des capacités, peut-être il y a des choses que nous pouvons aussi apporter aux gens qui vivent avec. Même nous, quand nous vendons au marché. Votre chef est incompétent, même les calculs simples que vous donnez, mais il faut avoir la manière de lui dire que, maman, vous voyez, ce que tu devais faire, c'est, si vous parlez de l'autre façon et vous le montrez dans le mauvais sens, vous pouvez perdre aussi votre travail. Vraiment, nous sommes dans un monde où l'inconscience a presque dominé tout le monde. C'est aussi, il faut qu'il y ait de telles émissions pour motiver, peut-être ceux qui sont dans les postes de décision, puissent aussi revoir leurs décisions. Merci beaucoup.
Merci Elvis. Quelle attitude faut-il adopter pour aider nos ministres à améliorer leurs compétences sans les découragé. C'est la question de Nathan. Voilà.
Bon, oui.
Coach Julius.
Par rapport à la question de Nathan, même par rapport à ce qu'Elvis vient de dire, une personne qui est nommée politiquement, c'est ce que j'étais en train de dire.
Oui.
Faites d'abord les premières étapes telles que je l'ai décrites. Maintenant, avec votre note, vous avez gardé une copie. Lorsque il y a persistance des faits, des fautes, d'incompétence, alors que vous avez contribué d'abord à la personne et que rien n'a changé, pour l'intérêt de l'entreprise, de la société, du pays et pour ta santé, maintenant vous devez vous référer. Je vais dire à tout le monde ici, tout le monde a une réaction. Tout le monde, même le président de la République a une réaction. Tout le monde a une réaction, c'est-à-dire que référez-vous à la hiérarchie de la personne pour maintenant transmettre dans l'intention qu'il puisse jouer le même rôle que vous. Ça aussi j'insiste. Je ne vais pas pousser les gens à des accusations. Non, 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 c'est une mauvaise démarche, ça ne va pas améliorer la personne, ça ne va pas l'aider. Oui. Commencez d'abord par chercher un secours hiérarchique pour venir vous appuyer dans votre démarche. Ça, c'est la première intention. Laissez à la personne qui va venir vous secourir constater que vous êtes dans une démarche où l'autre est incompétent. Je préfère que les médiateurs ou les facilitateurs puissent constater les compétences des autres, que ce soit vous qui l'accusez d'incompétence. Parce que nous sommes dans un monde professionnel, dans un monde du travail. Je reviens là où on a parlé que la personne a été nommée politiquement, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres politiques. Nous connaissons comment est-ce que la politique fonctionne.
Oui.
J'aimerais rester professionnel. La démarche que vous avez faite, comme c'était bonne, cherchez maintenant un secours. Un secours, c'est une hiérarchie adressée. Il y a les syndicats, il y a les services de gens qui peuvent collaborer, qui peuvent poser. Cherchez toujours quelqu'un qui l'écoute pour l'associer maintenant, pour aller à deux, pour qu'il s'occupe, il joue ce rôle-là de facilitateur. Et cette personne-là, en fait, en réalité, vous êtes en train de préparer votre avocat, votre la personne qui va vous justifier. Mais n'allez pas dans l'intention d'accuser.
J'insiste sur ça. La question de Monsieur Louis.
Je ne veux pas que les gens aient des problèmes au travail.
Oui, oui.
Voilà. Non, moi, je suis un coach mental. Je vous donne des solutions.
Oui.
Voilà.
Mais Monsieur Louembo, depuis Colosie nous dit quel est le rôle des conseillers au sein d'un cabinet d'une autorité jugée incompétente.
Bon. En fait, les conseillers ne sont pas chargés d'une autorité compétente. Les conseillers sont là pour accompagner l'autorité. Moi, j'ai été conseiller dans un cabinet. Je sais comment est-ce que ça fonctionne.
Oui.
Mais ça va poser toujours les problèmes si l'autorité est compétente ou pas. Mais ce qui est vrai, un conseiller reste un conseiller. Je vais donner une définition que les gens ne connaissent pas. C'est ça la différence entre un conseiller et un coach. Un conseiller utilise l'intelligence du chef. Ce que le chef dit, le conseiller travaille sur ça. Le coach, lui, il attend des solutions que le chef va proposer pour les mettre dans l'alignement. Un conseiller ne va pas sortir de ce que le chef dit. En grande partie, c'est vraiment un collaborateur, c'est un subalterne, mais pas quelqu'un qui va s'imposer. Non.
Il n'est pas là pour combler les lacunes du chef.
Non, non, il n'est pas là. Non, il est là pour appuyer les chefs, aider les chefs avec sa compétence, oui. Mais dans ce que les chefs veulent.
Okay.
C'est pour cela que la plupart des conseillers ne disent rien. Et vous apprenez que tel ministre a fait ça, ça, tout le monde se reproche. Même il y a des ordonnances, des arrêtés où il y a des fautes. Mais dans son cabinet, il y a deux professeurs d'université. Mais personne ne va parler de ces professeurs-là. Justement parce que ça n'engage pas les professeurs. Ça n'engage pas les conseillers, le directeur de cabinet, professeur d'université. Ça n'engage pas, ça engage l'autorité.
Mais les gens se diront, mais il y a des professeurs là-bas.
Justement, c'est ça qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire que les gens confondent l'autorité avec les résultats du travail, la performance. Alors que vous êtes dedans. Lorsque un ministre a de la valeur, derrière lui, il y a vous.
Oui.
Mais nos autorités, nos collaborateurs, les collaborateurs, surtout les professeurs d'université, je l'ai dit parce que, je vous dis, trois quarts des cabinets, les directeurs des cabinets sont des professeurs d'université. C'est que tout ce qu'on reproche au ministre, ce sont nos professeurs qui sont des responsables de ça. Je l'ai dit aujourd'hui, je sais pourquoi. Depuis Mobutu, les directeurs du cabinet sont toujours des professeurs d'université, en grande partie. C'est le problème que nous connaissons au Congo, c'est nous les intellectuels qui sommes responsables. C'est pour cela qu'il faut éveiller la société, on a besoin de la méritocratie, aider les chefs. C'est pour cela que moi je parle des solutions d'abord.
Mais il semble qu'il y a des chefs incompétents têtus qui,
oui,
qui
n'écoutent pas. Oui, ça c'est maintenant la troisième phase. Oui. La troisième phase. Lorsque les compétences risquent de préjudicer votre santé et l'entreprise ou la société, comme vous avez déjà écrit, vous avez un témoin, maintenant il faut porter à la personne qui peut décider.
Un instant, on va accueillir M. Jeannot Louembwe depuis Colosie. M. Louembwe, bonjour.
Monsieur Jody, je vous salue, vous m'entendez?
Oui, on vous écoute. Allez-y.
Oui, je salue l'invité, je vous remercie de la parole accordée. Je voudrais éclaircir mes deux questions. Quel est le lien devons-nous faire entre la compétence et l'intelligence et entre l'incompétence et l'inintelligence? Les liens entre les deux. Et la deuxième question, c'est de savoir, si on doit juger une autorité incompétente, alors quel est le rôle que doit jouer son cabinet? Parce que nous supposons que dans un cabinet, selon moi, si je suis dans l'erreur, vous allez me corriger, le cabinet est en train de jouer le rôle de béquille. Vous rédigez le discours, voilà, tout ça. Mais quel est le rôle de ce cabinet et des gens autour d'une autorité jugée incompétente? Parce que si nous devons, je suis conseiller, je suis faisant partie du cabinet, me laisser au gré des vagues de la volonté ou de l'incompétence de l'autorité. N'est-ce pas ternir aussi ou cracher aussi sur l'intelligence qui est mienne? Quel est le rôle de ces gens autour d'une autorité jugée incompétente? Voilà mes deux questions. Merci.
Bien. Coach Julius, à vous la parole.
Merci, M. Lemwe. En fait, bon, j'ai parlé ici, il m'a posé la question, quelle est la différence, quel est le lien entre l'intelligence et la compétence? L'intelligence, ça c'est par rapport à un acquis. Mais la compétence ici, cet acquis-là, la connaissance que vous avez, mais les mettre en exécution par rapport à une fonction, à une tâche ou aux décisions. C'est cette capacité-là, c'est ici qu'on parle des compétences.
Vous êtes intelligent. Le savoir-faire.
Le savoir-faire. Oui. C'est-à-dire, dans votre travail là, est-ce que vous êtes compétent? Mais vous pouvez avoir l'intelligence, vous avez vos diplômes, vos titres, vous avez obtenu grande distinction. Ça, c'est du papier. Nous tous, nous avons ça. Mais ici, nous parlons de savoir-faire du résultat. Ça, c'est très important. Et le contraire, c'est ça, l'incompétence. J'ai expliqué ça au début. Je reviens au cabinet à sa question. Les membres du cabinet, ils doivent jouer le rôle de béquille. Effectivement. Mais les membres du cabinet d'un ministre ne sont pas des ministres. Ils ne représentent pas les ministres. C'est-à-dire, les ministres, c'est les responsables. Le DG, c'est le responsable. C'est lui le responsable de tout.
Et l'incompétence du ministre, on le juge par rapport aux attributions ou peut-être aux résultats qu'il est censé atteindre. C'est par rapport à cela qu'on va le juger ou on le déclare seulement incompétent.
Non, bon, moi, si je dois trouver des mots pour dire qu'un ministre est incompétent, je vais rentrer dans les fonctions. Chaque ministre a ses attributions. À ses attributions. Déjà, par exemple, sortir de vos attributions, c'est une incompétence. Parce que vous avez tout un cabinet, il y a des juristes, ils savent que l'État vous a loué, vous a attribué telle attribution. Et vous commencez à faire autre chose sans intéresser, par exemple, les ministres concernés ou demander cette autorisation, ça c'est une incompétence. Ouais, parce qu'il y a des attributions, ça dit que chacun a ses canaux pour travailler.
Oui. Voilà. Et il a des résultats à atteindre.
Voilà. De deux aussi, l'incompétence est que je vais donner quelque chose de très important ici. Si vous avez les ressources appropriées, parce que souvent, on juge les gens par rapport aux résultats. Mais avant de juger les résultats, il faut vous demander si la personne avait les ressources. Je donne un exemple.
Pour atteindre ces résultats.
Voilà, pour atteindre ces résultats. Vous êtes un ministre. Vous proposez que, non, bon, supposons que vous êtes des ITP, vous avez un projet pour construire un pont. C'est validé tout. On fait sortir 30% des moyens. Vous commencez et puis, il n'y a plus de moyens.
Il n'y a plus de moyens. Qu'est-ce que vous faites?
Voilà. Parce que c'est le travail de l'État, c'est pas votre travail, c'est pas votre argent.
Oui.
Et le travail est bloqué, on va vous juger que non, voilà, il a commencé, il n'a pas fini.
Oui.
C'est pour cela que j'insiste sur ça, parce que c'est les paramètres que les gens oublient, les ressources. Avant de juger quelqu'un est compétent dans l'exécution d'une tâche, en dehors de l'intelligence qu'on m'a demandé notre ami, mais il faut demander est-ce que les ressources ont été mises à sa disposition. Parce qu'au travail, il y a beaucoup de problèmes. On vous donne des objectifs, on vous demande de faire ça, mais lorsque vous demandez, bon, donnez-moi du papier, donnez-moi ceci, j'ai besoin de transport.
On vous donne pas les moyens.
Non. Parfois, c'est tout dans l'administration, même les transports. On va vous dire, non, bon, il faut descendre sur place, faire ça. Et puis après, tout le monde te regarde. Mais les transports, je vais aller comment?
Je vais faire comment?
Ça, c'est un paramètre très important. Je vais dire ça surtout aux autorités. Ne donnez pas des tâches, des devoirs, sans vous rassurer que vous mettez à la disposition de la personne les ressources. Les ressources, il y a les ressources matérielles, humaines, les ressources managériales, même les compétences, parce que parfois, il faut des techniciens. Moi, par exemple, je suis médecin. Bon, si vous m'envoyez aller contrôler les réseaux de téléphonie, bon, si je n'ai pas avec moi les experts à la matière, même si moi je suis le chef, vous voyez un peu ce que je vais faire un travail bâclé.
Vous serez incompétent.
Je serai incompétent.
Voilà.
C'est que j'insiste sur ça. Avant de juger les résultats, vérifiez les ressources.
Coach, docteur Julius Elumba, sophrologue psychocomportementaliste, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Excellente journée et à la prochaine.
Merci.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.